Au cœur de la fameuse prière du Seigneur Jésus-Christ pour l'unité des siens, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ta parole est la vérité. Et c'est ce livre merveilleux que nous avons entre les mains, cette parole, la parole de Dieu. Alors ce matin, j'avais déjà partagé avec vous un témoignage. Je suis né dans une famille catholique, dans un pays qui est majoritairement identifié au catholicisme, pédobaptême, confirmation, communion, la petite communion, communion solennelle, inféodation à l'autorité de l'Église de Rome ont caractérisé mon parcours dans les premières années de ma vie. Ce n'est qu'à l'âge de 17-18 ans qu'une recherche philosophique qui a duré 3-4 ans, avec en toile de fond une conception agnostique de Dieu, de la spiritualité. Dieu existe peut-être, mais comment le connaître, comment vivre cette spiritualité, qui ont interrompu cet attachement à l'Église catholique. Et l'événement pivotal s'est produit dans la nuit du 10 au 11 avril 66, quand j'ai invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le rachat de mon âme. Et là, ça a été un tournant complet, hein, une volte-face totale. Les mois qui ont suivi ma conversion furent consacrés à la lecture avide de la parole de Dieu, ce Saint-Livre, dont le catholicisme m'avait privé pendant des années et des années. Hein. Bon, c'est vrai qu'il cite de temps en temps un verset, mais il est noyé hein, dans la masse des autres choses. Et c'est vrai encore que je crois que c'était lors de la communion solennelle, on nous avait remis les quatre évangiles, mais sans vraiment nous dire, il faut lire maintenant, hein, il faut vous inspirer de cela, c'est la parole de Dieu, etc. Donc c'est un livre qui a ramassé la poussière en restant bien fermé, hélas, je dois le dire. Et de la lecture avide de la Bible et de sa comparaison avec le catéchisme de ma jeunesse, en résultait deux décisions majeures. La première, c'était le rejet d'un système que j'ai évalué comme faux, comme une voie de garage, comme quelque chose de pernicieux. C'est ce système qui est connu sous le nom de Église catholique romaine universelle et apostolique, et ils ne sont pas les seuls hein, à induire les gens en erreur, mais c'est celle qui prétend être la seule détentrice des vérités bibliques et apostoliques. Et la deuxième décision, c'était de ne croire qu'en la parole de Dieu et d'adhérer donc à une Église qui ferait cela. Donc, je partageais à table avec quelqu'un, je ne sais plus qui, je disais que, ayant été piégé, ayant eu le sentiment d'avoir été piégé hein, dans une voie de garage avec le catholicisme, lorsque je suis devenu chrétien, hein, j'ai gardé les yeux grands ouverts, hein, je ne voulais certainement pas rebasculer dans un système et avoir 15 ans plus tard à dire « ah ben je me suis trompé de nouveau ». Donc j'ai sondé la parole de Dieu, j'ai examiné la parole de Dieu, j'ai examiné ce que l'on m'enseignait au niveau des doctrines, et j'essayais de comprendre pourquoi les autres pouvaient adopter parfois des doctrines différentes. Donc je ne suis pas contenté simplement d'étudier la Bible d'une perspective prémillénariste, dispensationaliste, etc., etc. J'ai examiné aussi la théologie de l'Alliance, j'ai voulu comprendre pourquoi certains pensaient que le pédobaptême était quelque chose de valable. J'ai voulu comprendre pourquoi certains croyaient qu'il n'y avait pas de millénium. J'ai voulu comprendre pourquoi certains étaient arminianistes et d'autres croyaient en la persévérance des croyants. J'ai voulu comprendre pourquoi certains étaient pentecôtistes, charismatiques, et d'autres ne l'étaient pas. J'ai lu des sources mêmes de leurs ouvrages. Je ne me suis pas contenté de lire des évaluations concernant leur doctrine. Je n'ai pas la prétention d'avoir lu les 4000 bouquins qui sont dans ma bibliothèque, mais j'en ai lu un grand nombre. Je suis un baptiste convaincu. Je ne suis pas baptiste par accident. Je crois que c'est la famille qui, lorsqu'elle est attachée aux Écritures, quand elle est attachée aux Écritures, exprime le mieux cette foi du Nouveau Testament, cette foi de Jésus-Christ et des apôtres. J'en suis convaincu. Et c'est pour ça que je le dis sans honte, moi je suis baptiste par conviction, je ne suis pas baptiste par accident. Quand en 92 apparut ce catéchisme de l'Église catholique en langue française, je m'étais promis de le lire pour faire face aux nombreuses allégations médiatiques et populaires selon lesquelles l'Église catholique avait fait avait pris un tournant décisif. Elle avait changé de manière dramatique et drastique et maintenant c'était vraiment une Église renouvelée, hein. Et c'est l'offre généreuse de mon collègue, là, de mon ami Tim Nickerbocker, qui m'avait laissé sa maison à Muret pour une dizaine de jours, qui m'a permis de, pendant cet espace de temps, de lire le catéchisme catholique. Dans la préface de l'ouvrage, j'y ai déjà fait allusion ce matin, et puis d'autres en ont parlé, Jean-Paul II, qui écrit « Le catéchisme de l'Église catholique, d'une part, reprend l'ordre ancien traditionnel, et déjà suivi dans le catéchisme de Saint Pie V, mais en même temps, le contenu est souvent exprimé d'une façon nouvelle afin de répondre aux interrogations aux interrogations du monde moderne, de notre époque. Document qui, je le répète, entre parenthèses, est ponctué par une vibrante prière à Marie. Je crois que c'était notre frère Boada qui l'avait reprise. C'est la conclusion de la préface. Je prie la très sainte Vierge Marie, mère du Verbe incarné, mère de l'Église, de soutenir par sa puissante intercession le travail catéchétique de l'Église entière à tous les niveaux, en ce temps où l'Église est appelée à un nouvel effort d'évangélisation. Donc Marie constamment. Déçu. Voilà ce que je pourrais dire. Déçu. Je l'ai été. Et je le suis toujours. Je l'ai été d'un bout à l'autre parce que j'avais espéré dans mon cœur que l'Église puisse changer. J'avais espéré que l'Église catholique puisse se rapprocher des Écritures et faire des réformes salutaires pour elle et pour le reste du monde. Donc déçu, oui, parce qu'elle ne s'est pas extirpée de ces funestes erreurs qu'elle a développé au fil des siècles et ces erreurs que les chrétiens bibliques ont combattues depuis l'aube des temps, pratiquement depuis un système appelé catholicisme, et on peut grosso modo dire que le catholicisme naît avec Constantin, on peut le dire. La seule découverte, La seule découverte se situe, je dirais, au niveau de ce que j'ai appelé tout au long de cette conférence, la nouvelle stratégie de l'Église de Rome. Nouvelle stratégie, l'accommodement, la conciliation, un ton un petit peu nouveau par rapport aux protestants, par rapport aux autres, par rapport à tout le monde d'ailleurs. J'ai pas amené mes livres là. Ce qui a été décrété au moment du Concile de Vatican II, vous allez vous apercevoir que ça va jusqu'à l'universalisme quasiment. C'est-à-dire que les musulmans sont des catholiques qui s'ignorent, hein. Et puis les autres aussi, les bouddhistes et puis d'autres aussi, ce sont simplement des gens qui ont la foi, mais bon, ils n'ont pas toute la lumière des catholiques. Ils ont basculé vraiment d'une extrême à l'autre sur ce plan-là. Et on sent quand même qu'il y a eu une forte poussée des éléments libéraux dans le catholicisme, parce que l'Église catholique est tiraillée, il ne faut pas vous imaginer que c'est un système monolithique. Même si là on présente un catéchisme, je peux vous garantir qu'au niveau de l'interprétation de ce catéchisme, entre monsieur Ratzinger, monsieur Hans Küng et d'autres, il y a des interprétations qui sont pratiquement diamétralement opposées avec évidemment celle d'un cardinal, d'un monseigneur Lefebvre ou que sais-je encore. Alors déçu, je l'ai été. Et c'est simplement que bon, j'ai découvert. J'ai pas découvert moi-même. Je suis pas le seul. Je suis pas en train de dire que voilà, je vous apporte la lumière, mes frères. Non, je crois que si vous lisez le catéchisme catholique et vous avez quelques connaissances des dogmes de cette Église, vous allez vous apercevoir qu'en fait, la seule chose, c'est qu'il y a une nouvelle stratégie de Rome. Impuissante qu'elle était à entraver la marche du mouvement évangélique. Car ça, c'est une donnée qu'il faut reconnaître aussi. Il y a une marche en avant du mouvement évangélique. Bon, nous en France, nous ne la ressentons pas avec vivacité. Mais je peux vous garantir que si vous allez en Amérique du Sud, et si vous allez dans d'autres pays du monde, vous allez, il y a une floraison hein, d'œuvres évangéliques, d'églises bibliques. Hein, il y a une floraison de ces choses. Et Rome, n'ayant pu entraver la marche de la vérité évangélique, change de tactique pour assimiler, pour récupérer, pour amadouer, pour neutraliser hein, les forces vives de ce christianisme évangélique. Il y a le biais de l'accommodement, le biais de l'œcuménisme. Et faut le reconnaître, les catholiques sont à l'avant-garde de l'œcuménisme, ce n'est pas les protestants libéraux. Les catholiques parlent constamment de recherche œcuménique. Et se font piéger, évidemment, tous ceux qui perdent de vue un petit peu leur discernement hein, et pensent à la manière d'un Billy Graham hein, et pensent que on peut travailler avec les catholiques et puis exploiter la chose et ne pas se brûler les ailes. Hein. Il faut bien reconnaître que Monsieur Billy Graham, hein, je dis ça avec regret, hein, a vraiment pavé le chemin hein, pour ce que nous voyons aujourd'hui. Aucun doute. Hein. C'est lui le premier qui a voulu intégrer hein, des catholiques, des libéraux dans son système d'évangélisation et qui a marginalisé évidemment les braves évangéliques là qui disaient mais qu'est-ce que tu fabriques, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, ne fais pas cela. Alors, donc par le biais de l'accommodement, de l'œcuménisme, l'Église cherche à récupérer tous ceux qui ont perdu hein, leur bon sens là, leur sens du discernement. Et puis évidemment, les autres vont être marginalisés. Hein. Bon, j'ai pas de complexe du martyr là. Je ne tiens pas du tout à subir moi. Hein. Je préférerais hein, continuer mon ministère dans une relative quiétude, hein, combattre le bon combat, mais sans pour autant être menacé constamment. Mais je crois que on va voir de plus en plus d'ostracisme de la part des médias, de la part de la société, de la part de l'intelligentsia religieuse, on va ressentir cet ostracisme parce que nous refusons le compromis œcuménique. Hein. Et quand on lit le catéchisme catholique, on s'aperçoit que rien n'a changé. Honnêtement, sur le plan doctrinal, si vous l'avez lu, rien n'a changé. C'est le magistère romain conserve toutes ces doctrines, y compris les fausses doctrines. Et je reconnais qu'il y a dans la doctrine catholique des vérités auxquelles je peux dire Amen. Hein, lorsqu'ils évoquent les questions de trinité, de divinité de Jésus-Christ, moi je résonne d'un vibrant Amen à ces choses-là. Mais à l'intérieur de ce magistère romain, il y a également toutes les fausses doctrines, hein, et le magistère bâtit toujours sur de faux dogmes hein, et par conséquent reste une église qui ou un groupe qui n'enseigne pas la vérité qui proclame toujours hors de l'église point de salut hein. Mais ils l'ont expliqué d'une manière particulière cette fois-ci, hors de l'église point de salut. Vous savez que c'était... Alors j'ai l'article, c'est bien, ils ont mis des articles, donc on peut retrouver assez facilement les choses. Article 618, je crois. Ça vous arrive de vous tromper de verset? Donc, voilà pourquoi. 800. Comment faut-il entendre cette affirmation, hors de l'Église, point de salut, souvent répétée par les pères de l'Église, formulée de façon positive, on voit que Norman Vincent Peale est passé par là, formulée de façon positive, elle signifie que tout salut vient du Christ tête par l'Église qui est son corps. Alors, appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul en effet le Christ est médiateur et voie de salut, Je ne sais pas comment ils arrivent à réconcilier. C'est ce que vous disiez ce matin, hein. Ils disent une chose et son contraire un peu plus loin. C'est ce que vous me disiez ce matin. Donc là, le seul médiateur, et puis plus loin, on va voir que Marie joue un rôle prépondérant aussi. Et je continue donc. Or, il nous devient présent en son corps, qui est l'Église, et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême. C'est la nécessité de l'Église elle-même dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême. Il nous a confirmé en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient être sauvés. Alors, pas de changement, hein, pas de changement sur le plan doctrinal. Il y a 3000 citations de la Bible dans ce catéchisme. 3000 citations qui sont mentionnées, hein, les évangéliques qui seraient tentés de dialoguer là, avec l'Église catholique, avec l'Église romaine, soient avertis. Hein. Il faut voir de quelle manière ces versets ont été utilisés. Alors, le 25 janvier 85, Jean-Paul II a convoqué une assemblée des évêques, extraordinaire, du synode des évêques, afin de marquer justement le 20e anniversaire de la clôture de Vatican II. Le but était de souligner le résultat positif. Et je crois que pour eux, c'est vrai, c'est positif. Hein, les gens ont pensé, ah, l'Église catholique a fait des concessions aux protestants, etc., etc. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, hein, j'allais au Bahut en Lorraine, et en Lorraine, il y a encore union de l'Église et de l'État, hein, et on enseignait le catéchisme et la religion à l'école. Donc, au lycée, j'avais des cours de religion. Et dans mon cours de religion, en 1957, certains d'entre vous n'étaient même pas nés, dans ce cours, j'avais un manuel qui disait, qui parlait de Luther et qui disait ce moine hérétique et défroqué, hein, etc., etc. Donc c'est sûr que Vatican II a changé un petit peu le ton. Hein. Moi sur le ton, ça c'est vrai. Hein. Et les protestants ont cru que ce concile allait leur être largement favorable, mais je crois qu'ils vont s'apercevoir que c'est simplement l'ogre qui est en train de les dévorer tout doucement là. Alors, le but était de souligner, hein, le résultat positif de ce concile, mais aussi de voir comment les décisions prises pouvaient être encore mieux exécutées. Et au cours de cette assemblée, les pères du synode ont exprimé le souhait que soit rédigé un compendium de toute la doctrine catholique, tant sur la foi que sur la morale, et c'est ce livre de 700 pages que nous avons là. Et la rédaction a été confiée à 12 cardinaux et évêques présidés par le fameux cardinal Ratzinger. La façon dont le contenu de ce volume de près de 700 pages est présenté suit d'assez près celle de tous les catéchismes précédents, à savoir que la première partie traite de ce que l'on croit, hein, ce qu'il croit, la profession de la foi chrétienne, révélation de Dieu, mais attention, hein, quand on parle de révélation de Dieu, il ne s'agit pas comme ce que vous comprenez immédiatement au niveau de la révélation. Hein. Pour les catholiques, ce n'est pas l'Écriture sainte qui est la révélation. L'Écriture sainte fait partie de cette révélation, mais on n'en est pas à l'exclusivité, et elle est complétée d'ailleurs par tout un ensemble de doctrines, de dogmes, de bulles papales, etc. Et dans la première partie du catéchisme, vous avez un commentaire sur le credo. Et là, on y trouve des choses tout à fait intéressantes, hein, sur le credo là. Jésus, hein, on parle de Jésus, et c'est très bien. Il nous a tracé le chemin afin que nous suivions ses pas. Il veut en effet associer à son sacrifice rédempteur ceux-là même qui en sont les premiers bénéficiaires. Cela s'accomplit suprêmement en la personne de sa mère, associée plus intimement que tout autre au mystère de sa souffrance rédemptrice. Ah, ok. Ça, c'est l'explication, hein. Deuxième explication que je trouve concernant la foi, hein, la doctrine, dans page 1000, article 1032, où je trouve là, j'aurais dû me faire des petits trucs là. 1032. Alors là, on parle de... Alors, laissez-moi lire ça. Ça, je crois que ça va être assez révélateur. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Bon, tout de suite, moi, j'oserais même pas me présenter devant Dieu avec ma justice personnelle, vous. Je vois pas ce que ma justice personnelle, en quoi ma justice personnelle pourrait convaincre Dieu de me laisser entrer dans l'éternité. Mais là, elle n'est pas parfaite, donc l'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus, qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés, heureusement pour eux. L'Église a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire, surtout au Concile de Florence, de Trente, la tradition de l'Église faisant référence à certains textes de l'Écriture, parle d'un feu purificateur. Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le jugement un feu purificateur selon ce qu'affirme celui qui est la vérité, en disant que si quelqu'un a prononcé un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle futur. Dans cette sentence, nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, mais certaines autres dans le siècle futur. N'allez pas enseigner ça maintenant, hein. Cet enseignement s'appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts, dont parle déjà la Sainte Écriture. Voilà pourquoi Judas Maccabée fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Et là, vous avez le deuxième livre des Maccabées, livre apocryphe. Dès les premiers temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, donc la messe, afin que purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences, c'est là, hein, et les œuvres de pénitence en faveur des défunts, portant leur secours et faisant leur commémoraison. Si les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père, pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent quelque consolation? Moi, j'ai jamais vu ça dans Job, et vous? Peut-être que quelqu'un peut m'éclairer, là. Bon, ça, c'est la première partie, hein, c'est la profession de la foi chrétienne, alors qui s'appuie largement, alors, sur Saint Grégoire le Grand, Saint Jean Chrysostome, Saint Cyprien, hein, Benoît, Jean 22, Benoît 12, Benoît 12, Ambroise, etc. Bon, c'est fou ce qu'il y a comme preuve biblique là-dedans. Et surtout l'histoire du purgatoire. Alors là, il y a des documents, hein, et puis on se demande, certains d'entre eux, je ne sais même pas à quoi ça correspond, j'aimerais bien voir, quelqu'un sait-il ce qu'est DS? Monsieur Fouchier, vous ne savez pas ce que c'est DS, Dan Lacy non plus? DS, je vois pas à quoi ça correspond chez les catholiques. DS. Enfin, la deuxième partie de ce catéchisme, c'est la célébration du mystère chrétien. Hein. Deuxième partie, la célébration du mystère chrétien. Et là, c'est les sacrements. Hein. C'est les sacrements. Ce mystère chrétien, hein, s'exprime surtout par les sept sacrements de l'Église romaine. Alors, je vais vous lire ce qui est enseigné, là, dans ce catéchisme, le 1127. Bon, je l'ai ici. Célébrer dignement dans la foi, les sacrements confèrent la grâce, qu'ils signifient. Ils sont efficaces, parce qu'en eux, le Christ lui-même est à l'œuvre. C'est lui qui baptise, c'est lui qui agit dans ses sacrements afin de communiquer la grâce que le sacrement signifie. Le Père exauce toujours la prière de l'Église, de son Fils, qui, dans l'épiclèse de chaque sacrement, exprime sa foi en la puissance de l'Esprit. Comme le feu transforme en lui tout ce qu'il touche, l'Esprit Saint transforme en vie divine ce qui est soumis à sa puissance. Alors, c'est là le sens de l'affirmation de l'Église. Les sacrements agissent ex opere. Opérato, littéralement, par le fait même que l'action est accomplie. Donc c'est l'acte en lui-même. C'est-à-dire en vertu de l'œuvre salvifique du Christ accomplie une fois pour toutes. Il s'ensuit que le sacrement n'est pas réalisé par la justice de l'homme, tant mieux, qui le donne ou le reçoit, mais par la puissance de Dieu. Dès lors qu'un sacrement est célébré conformément à l'intention de l'Église, la puissance du Christ et de son Esprit agit en lui et par lui, indépendamment de la sainteté personnelle du ministre. Ils l'ont échappé belle, hein, parce que, dites donc, je ne sais pas si vous avez déjà lu hein, la partie historique sur la papauté, hein, mais sur la papauté, sur le clergé, hein, même dans les livres d'histoire, hein, je suis pas en train de calomnier l'Église catholique, hein, même dans les livres d'histoire hein, qu'on nous présente dans les écoles de France et de Navarre, hein, on dit que le clergé était ignorant et immoral. Hein, donc c'est pas une invention là. Heureusement que dans leur optique, au moins, les sacrements n'étaient pas annihilés, n'étaient pas nullifiés hein, par le caractère du personnage qui les administrait. Hein. Alors, j'en viens au point 1129. L'Église affirme que pour les croyants, les sacrements de la Nouvelle Alliance sont nécessaires au salut. Nécessaires au salut. Donc, il n'y a pas de salut par simplement l'exercice de la foi dans le sacrifice expiatoire, propitiatoire du Christ sur la croix. Non. Il y a tout le reste. La grâce sacramentelle et la grâce de l'Esprit Saint donnée par le Christ propre à chaque sacrement, évidemment c'est l'Église qui la dispense. Le pouvoir de l'Église par conséquent. Le pouvoir. Elle détient votre destin éternel. Heureusement qu'il n'en est pas ainsi, heureusement que c'est Dieu et votre foi hein, qui vont amener ce salut. Hein. Alors, là, j'aurais pu encore citer d'autres choses. La troisième partie présente la vie dans le Christ. La troisième partie, c'est la vie dans le Christ. C'est le grand chapitre de l'ouvrage qui se rapporte, alors là il y a pas mal de choses, hein, qui se rapporte à l'éthique, à la conduite, à la justice sociale. Dans sa deuxième section, il y a une série sur les 10 commandements. Et donc les 10 commandements, parfois il y a des choses qui sont bien, hein, je les ai lues, et il y avait des choses qui étaient pas mal. Mais ces 10 commandements sont toujours mal énumérés. C'est ce qui m'avait déjà choqué tout jeune chrétien hein, lorsque j'ai pris le premier catéchisme et que j'ai vu que on avait lié hein, les deux premiers commandements et on avait scindé hein, le dernier commandement pour en avoir toujours 10 là, parce qu'un décalogue à 9 ça va plus. Mais le premier et le second commandement sont comme soudés ensemble, le dixième est encore scindé en deux, c'est tu ne feras point d'image taillée et donc citée, mais habilement contournée. Hein? Et, alors c'est vraiment extraordinaire, hein, l'explication qui est offerte hein, pour les statuts et tout le reste là, hein, dans l'article 2129 là, tu ne te feras aucune image sculptée. L'injonction divine comportait l'interdiction de toute représentation de Dieu par la main de l'homme. Le Deutéronome explique, puisque vous n'avez vu aucune forme, le jour où le Seigneur à l'Horeb vous a parlé du milieu de feu, n'allez pas vous pervertir et vous faire une image sculptée représentant quoi que ce soit. C'est le Dieu absolument transcendant qui s'est révélé à Israël. Il est toute chose, mais en même temps, il est au-dessus de toutes ses œuvres. Il est la source même de toute beauté créée. Oh, c'est bien. Cependant, voilà le mot qui va changer. Voilà le petit mot qui change tout. Cependant, dès l'Ancien Testament, Dieu a ordonné ou permis l'institution d'images qui conduiraient symboliquement au salut par le Verbe incarné. Ainsi, le serpent d'airain, l'arche d'alliance, et les chérubins. C'est en se fondant sur le mystère du Verbe incarné que le 7e concile œcuménique à Nicée en 787 a justifié contre les iconoclastes, ça existait déjà à l'époque, hein, le culte des icônes, celle du Christ, mais aussi celle de la Mère de Dieu, des anges et de tous les saints. Tenez-vous bien, en s'incarnant, le Fils de Dieu a inauguré une nouvelle économie des images. pas. Vous pouvez vous rendre... Alors, le culte chrétien des images n'est pas contraire au premier commandement qui proscrit les idoles. En effet, l'honneur rendu à une image remonte au modèle original. Modèle original. Alors, Basile. Ah, c'est Basile qui a dit ça. Et quiconque vénère une image vénère en elle la personne qui y dépasse. Ah, qui est-ce qui a dit ça? Ah, c'est le Concile de Nicée. L'honneur rendu donc aux saintes images est une vénération respectueuse, non une adoration qui ne convient qu'à Dieu seul. Alors il y a toujours cette fameuse dichotomie là, hein, Dieu seul est adoré, et puis les autres sont vénérés. Marie, les saints, les anges, etc. sont vénérés. Mais demandez un petit peu à l'homme de la rue, là, le catholique moyen, hein, et observez-le surtout. Vous avez déjà eu l'occasion d'aller à Notre-Dame? Moi, oui, parce que quand on est ici, tout près de Paris, il y a plein d'Américains qui passent et qui disent « Je voudrais voir Notre Dame ». Alors, on va à Notre-Dame, hein, et surtout depuis qu'ils ont sorti le dessin animé, la Quasimodo, je sais pas quoi, là. Maintenant, c'est Notre-Dame. Hein. Tout le monde connaît Notre-Dame, maintenant. En tous les cas, quand vous allez à Notre-Dame de Paris, qu'est-ce qui se passe? Observez les gens et vous allez vous apercevoir qu'ils sont tous courbés là avec leurs petites devant ces petits cierges qui prient à leur place là souvent. Et puis c'est devant une statue de la Vierge, c'est devant une statue d'un saint. Alors ils ont beau dire que le culte de la religion s'adresse pas aux images en elles-mêmes comme des réalités. Il n'en demeure pas moins que pour la plupart des catholiques, c'est ce qui se produit. Alors, la sculpture du serpent des reins est donnée afin de justifier les images taillées ou idoles, évidemment. Évidemment, hein, on ignore royalement le deuxième livre des chroniques, là. Non, je dis pas, j'ai pas dit chronique, hein. C'est pas chronique, c'est roi. Le deuxième livre des rois, au chapitre 18... Et au verset 4, alors celui-là, on l'ignore royalement. Hein. Il fit disparaître, donc Ézéchias le réformateur, là, celui qui a ramené le peuple d'Israël vers la parole de Dieu. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, mit en pièces, quoi? Le serpent des reins que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. Donc cette fameuse idolâtrie est condamnée par la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas la justifier, c'est pas possible. Et on peut toujours se demander, hein, pourquoi le catéchisme n'a pas essayé de justifier le veau d'or qui représentait une adoration à l'Éternel, je vous le rappelle, hein, comme à Dan, hein, quand ils ont mis l'autel, hein, c'était aussi pour adorer l'Éternel à travers des idoles. Alors, le catéchisme veut nous faire croire que ce commandement, hein, le commandement dans le décalogue, n'est lié qu'à l'ancienne alliance et que pour ce qui concerne les idoles, qu'en s'incarnant, le Fils de Dieu a inauguré cette nouvelle économie. Et, quelle exégèse ahurissante. En tous les cas, moi, je la trouve inacceptable. Je ne sais pas ce que c'est. Ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, c'est inacceptable. Alors, la quatrième partie du livre concerne la prière chrétienne. Et ça, je crois que, bon, il faut retirer au moins une leçon, là. C'est que c'est vrai qu'il faudrait, attirer davantage l'attention des chrétiens sur l'importance de la prière. Moi, je crois que dans notre société qui vit si vite, les gens ne prennent même plus le temps de prier, ne prennent même plus le temps de remercier le Seigneur, ne prennent plus le temps de se rencontrer et d'élever leur voix vers le Seigneur pour l'adorer vraiment. Bon, la prière chrétienne a sa place, hein, dans le système catholique et je crois qu'il faudrait, de notre côté, qu'on mette ceci aussi davantage en exergue. Parce qu'il le... Pour eux, la prière chrétienne, c'est un moyen de vivre dans une relation vivante et personnelle. Je suis tout à fait d'accord. Mais je me demande comment on fait cela en récitant « Je vous salue, Marie, ou notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, etc. etc. » comme je l'ai fait des centaines et des milliers de fois sans doute. Ou des prières qui sont toutes faites, hein. Il y a des livres entiers, hein, sur les prières, les actes de foi, les actes de contrition et tout ça. Je ne vous apprends rien si vous étiez dans la mouvance catholique auparavant. Mais, pour vivre cette relation, alors la prière à Marie Encore une fois, je crois qu'on a la pierre de touche là, d'un problème majeur, hein, qui va toujours nous opposer au catholicisme. La prière à Marie est présentée ipso facto comme faisant partie intégrante, hein, de la vie spirituelle, hein, du catholique. Alors je vais vous lire l'article 2673. Il y en a plusieurs. Alors, dans la prière, l'Esprit Saint nous unit à la personne du Fils unique en son humanité glorifiée. C'est par elle et en elle que notre prière filiale communie dans l'Église avec la Mère de Jésus. Qu'est-ce que vient faire là-dedans, encore une fois? Depuis le consentement apporté dans la foi à l'Annonciation est maintenu sans hésitation sous la croix, la maternité de Marie s'étend désormais aux frères et aux sœurs de son fils qui sont encore des pèlerins et qui sont en butte aux dangers et aux misères. Jésus, l'unique médiateur, est le chemin de notre prière. Moi, je n'ai jamais entendu un catholique dire « Nous te prions ces choses au nom de Jésus-Christ, Amen. Hein? » Marie, je reprends. Jésus, l'unique médiateur, est le chemin de notre prière. Marie, sa mère, est notre mère. Lui est toute transparente. Heureusement, hein, parce qu'il est Dieu. Hein. Si elle n'était pas toute transparente, il y aurait un problème. Elle montre le chemin. Elle en est le signe selon l'iconographie traditionnelle en Orient et en Occident. C'est à partir de cette coopération singulière de Marie à l'action de l'Esprit Saint que les Églises ont développé la prière à la Sainte Mère de Dieu en la centrant sur la personne du Christ manifestée dans ses mystères. Dans les innombrables hymnes et antiennes qui riment cette prière, deux mouvements alternent habituellement. L'un magnifie le Seigneur pour les grandes choses qu'il a faites, pour son humble servante et par elle, pour tous les humains. L'autre confie à la Mère de Jésus les supplications et les louanges des enfants de Dieu, puisqu'elle connaît maintenant l'humanité qui en elle est épousée par le Fils de Dieu. Double mouvement de la prière à Marie. Donc, voilà, la prière à Marie fait partie intégrante, comme je vous l'ai dit. Hein. Bon, je pense que ceux qui étaient avant dans le catholicisme peuvent l'étayer également. Hein. Pénitence. Chaque fois, quand j'allais confesser mes péchés au prêtre, pénitence. Alors, c'était 3 Notre Père, 15 Je vous salue Marie. C'était toujours cela. C'était toujours disproportionné de manière ahurissante les prières à Marie, hein, prières à Marie, prières à Marie. Et quand on comprend un petit peu mieux, hein, l'optique de la théologie ou de la tradition catholique, on voit pourquoi ils font cela. Vous connaissez tous les affirmations blasphématoires d'un certain Ligori, là, qui a été canonisé, qui a été béatifié, qui est devenu saint, hein, saint, et qui disait, passez pas par Jésus, il est dur. Allez vers sa mère, elle saura l'attendrir. On comprend donc pourquoi il y a ce détournement de la prière. Hein. Moi, je ne vois pas un Jésus comme quelqu'un de dur. Au contraire, il est doux, il est d'amour. Hein. Et je ne saisis pas comment l'on peut prier à une créature alors qu'on peut s'adresser directement au Créateur. Alors, il y a tromperie, hein, il y a tromperie là, parce que malgré les 3000 versets bibliques, hein, citations bibliques dans le catéchisme, ce qui ferait croire que l'Église catholique se fonde continuellement sur la Bible pour tout ce qu'elle croit, tout ce qu'elle enseigne, il nous faut constater que parfois, pour soutenir telle ou telle croyance, la parole de Dieu est citée faussement. Faussement. Et là, il y a tromperie, il y a duplicité. Ainsi est donnée à certaines doctrines romaines l'apparence de fondement biblique alors qu'il n'en est rien. Il n'y a pas l'appui des Écritures. Bon, c'est vrai que dans un ouvrage comme celui-ci, hein, où on traite de toute la doctrine, hein, si vous avez déjà enseigné la théologie, vous savez que c'est une tâche ardue et il est très difficile de systématiser, hein, les choses en peu de pages. Et dans un ouvrage de ce genre, il n'est pas question de faire systématiquement de l'exégèse biblique, hein, pour soutenir toute doctrine énoncée. Mais lorsque le fameux pape Roncalli, là, Jean XXIII, hein, avait assigné au Père conciliaire du Vatican la tâche de mieux expliquer le dépôt précieux de la doctrine chrétienne aux fidèles, à tous les hommes de bonne volonté. On pouvait s'attendre à ce que ce catéchisme fasse référence constamment à la Bible et que les versets bibliques soient cités en tenant compte de leur contexte. Et force nous est de constater qu'il n'en est pas ainsi dans ce catéchisme. Peut-être le plus frappant exemple de ces fausses citations, hein, je ne peux pas vous les donner tous parce qu'il nous faudrait passer 3-4 jours ici et encore je ne ferai qu'effleurer la question. Hein. Mais le plus frappant exemple de ces fausses citations est en rapport avec la doctrine romaine concernant Marie, une fois de plus. Et le travail est fait très subtilement. Hein. Dans le paragraphe 490, 491 jusqu'à 493, il est question de cette fameuse Immaculée Conception. Hein. Et dans le paragraphe 492, nous avons cette forme de tromperie que je voudrais citer à titre d'exemple. Il y en a d'autres du même genre. Hein. Les quatre paragraphes, la 490 à 493, portent comme titre donc l'Immaculée Conception. Et le texte d'expliquer que l'Église catholique croit que Marie avait été rachetée dès sa conception. Alors, pour confirmer cette hérésie, nous lisons dans le paragraphe 492, « Cette sainteté éclatante, absolument unique, dont elle est enrichie dès les premiers instants de sa conception à elle, on ne parle pas de la conception de Jésus, là, on parle de la conception de Marie, hein, lui vient tout entière du Christ, elle est rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils, plus que toute autre personne créée, le Père, et suivez bien, le Père l'a béni par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Il l'a élue, donc elle, Marie, en lui, dès avant la fondation du monde, pour être sainte et immaculée en sa présence dans l'amour. » Ça, c'est Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Et Éphésiens chapitre 1er, verset 3 ne parle pas de Marie. Éphésiens chapitre 1er, verset 3 parle de l'Église. L'apôtre Paul a adressé cela aux Éphésiens, ça se rapporte à toute l'Église de Jésus-Christ, ça inclut les croyants d'Éphèse, et le citer donc, citer ce passage en le féminisant, hein, comme s'il avait été écrit au sujet de Marie, c'est mentir, c'est tromper. Il faut refuser une telle supercherie, il faut la dénoncer. Faut pas la laisser là-dedans, c'est une supercherie, ça. Donc, voilà sur ce quoi s'appuie, parfois, hein, l'enseignement doctrinal de l'Église de Rome. Des versets qui sont cités hors de contexte, qui ne correspondent pas du tout à l'intention initiale, hein, de l'auteur sacré. C'est d'autant plus grave que, bon, les catholiques ne sont pas dénués d'esprit, là, hein, ils ont des théologiens hors pair, on a vu l'explication ce matin, je crois, qui est-ce qui nous avait apporté cette explication là concernant le gars qui était devenu catholique là, c'était qui ça, tu vois, hein, ce cheminement, hein, quel était le point de départ, oui, et puis non, mais je veux dire le point de départ de la doctrine, c'était pour justifier Marie, je crois, et le point de départ c'était quoi, il y avait tout un cheminement donc avec une logique, et puis on fait si on ne connaît pas vraiment les Écritures, on va faire puis accepter la conclusion. Alors, certains évangéliques, hein, osent-ils espérer que des changements de doctrine allaient être présentés dans ce nouvel ouvrage? Bon, ils sont déçus. Moi, je suis déçu. Je suis découragé parce que je me dis, je vois rien, je vois pas ce qui va pouvoir bouger ce Léviathan. De 2000 ans de confrontation avec les véritables chrétiens, hein, avec l'exégèse apportée par des serviteurs de Dieu, pour en arriver toujours à un résultat plus déplorable, puisque cette Église s'enferme de plus en plus dans sa dogmatique, hein, dans des affirmations qui ne reposent sur aucune Écriture. Alors, il faut bien comprendre que, en ce qui concerne les catholiques, hein, l'Écriture sainte, n'est pas la seule autorité souveraine en matière de foi et de pratique, et c'est cela qui nous divisera de manière constante et permanente. Et l'Église romaine reste donc l'autorité. C'est pas la Bible qui est l'autorité, c'est l'Église romaine. L'Église romaine est son chef. L'Église romaine et ses évêques. Ce sont eux qui véhiculent les doctrines pour le salut des hommes. Alors c'est vrai qu'il y a une ouverture vers une espèce de syncrétisme de mauvais aloi d'ailleurs, parce que moi je ne vois pas comment on peut dire à un musulman qu'il est un chrétien qui s'ignore. Hein. Mais malgré l'ouverture aux autres religions, syncrétisme, et à la chrétienté en général par le biais de l'écuménisme, réaffirmé partout hein, dans les pages de ce catéchisme, nous devons conclure que cette ouverture n'a été conçue que pour faciliter l'entrée, le retour des égarés dans le giron de l'Église catholique. Et ça marche pour quelques-uns. Ça marche pour quelques-uns. Alors, 816. L'unique Église du Christ est celle que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qui lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger. Cette Église, comme société constituée et organisée dans le monde, est réalisée dans l'Église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Donc le Lefèvre, non, ça marche pas. Mais les autres qui sont en communion avec lui. 839. Vraiment, il faudrait passer plus de temps. Quant à ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile sous des formes diverses, eux aussi sont ordonnés au peuple de Dieu. Le rapport de l'Église avec le peuple juif. L'Église, peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance, découvre, en scrutant son propre mystère, son lien avec le peuple juif, à qui Dieu a parlé en premier. À la différence des autres religions non chrétiennes, la foi juive est déjà réponse à la révélation de Dieu dans l'ancienne Alliance. C'est au peuple juif qu'appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, et là ici, Romains chapitre 9. Et l'on considère quand on considère l'avenir, le peuple de Dieu de l'ancienne alliance et le nouveau peuple de Dieu tendent vers des buts analogues, l'attente de la venue ou du retour du Messie. Donc voilà, rabat. Attends, il y a un mot là encore à côté là. Les relations de l'Église avec les musulmans. Le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur. Ah, c'est tout ce qu'il faut alors. En tout premier lieu, les musulmans qui professent la foi d'Abraham adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, juge des hommes au dernier jour. Ah ben c'est bien. Maintenant, on a le rabbin, le mot là. Et ça continue, le lien de l'Église avec les religions non chrétiennes. Des pages et des pages. C'est là où j'étais le plus surpris, moi, personnellement, de voir cet universalisme. Amener les éléments libéraux dans le système catholique. Alors, de par les structures de l'Église catholique, c'est un système très monolithique quand même. Vous pouvez exprimer des idées divergentes, mais gare à vous. Certains l'ont appris à leurs dépens, en perdant leur chair, en perdant leur droit d'enseigner, etc. Mais de par les structures de ce système religieux, ainsi que de par la conception que l'Église catholique a d'elle-même, je ne vois pas comment ils peuvent changer. Ils vont être obligés de continuer d'annoncer de fausses doctrines. Obligés. Ils perdraient toute crédibilité aux yeux des millions et des millions de catholiques s'ils disaient, les réformés avaient raison, les baptistes avaient raison, les autres avaient raison, lorsqu'ils disaient que la justification c'était par la foi seulement, perdrait toute crédibilité. Il ne pourrait plus être l'autorité. L'autorité ecclésiastique est là. Et là, vous allez pouvoir constater que dans les années à venir, l'Église catholique va prendre une place de plus en plus grande dans les affaires du monde, dans les affaires de la France, et vous allez être affecté d'une manière ou d'une autre par cela. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a un grand nombre de catholiques qui sont sceptiques concernant plusieurs fausses doctrines enseignées par le catholicisme. Certains contestent l'infaillibilité papale, le pape qui s'exprime ex cathedra et devient infaillible. D'autres contestent d'autres doctrines, Mais dans l'ensemble, le système est tellement contrôlé, tellement hiérarchisé, tellement il y a une telle exigence de soumission au supérieur. Hein? Vous, votre relation, c'est avec Dieu. Le pasteur est un modèle, là, c'est tout. Il prêche la parole, il veut vous conduire dans la vérité, mais c'est un modèle. Il peut en aucun cas dire, il faut que tu fasses cela maintenant. Mais dans l'Église catholique, si un évêque dit à un prêtre, soumets-toi, que tu le veuilles ou non, le brave curé doit le faire. Donc il y a un système monolithique. Alors, je voudrais vous encourager. Je voudrais vous encourager à témoigner aux catholiques, témoigner de l'amour du Christ, témoigner de l'amour de Dieu, leur montrer qu'il y a Jésus-Christ qui s'est donné pleinement, entièrement, hein, pour le salut de leur âme, qu'ils n'ont pas à trembler, hein, dans la perspective d'un purgatoire ou je ne sais quoi encore. Hein. J'aimerais vous encourager à témoigner à ces hommes, à ces femmes qui sont dans un système. Moi, je loue le Seigneur de ce que quelqu'un m'a dit. Et Bernard, viens écouter la parole de Dieu. Hein, sinon, je serais encore perdu dans mes péchés, hein, perdu dans un système sclérosé. Alors, j'aimerais que vous puissiez non pas vous faire prendre au piège, hein, de ce syncrétisme, de cet écuménisme, où ça y est, ah oui, pourquoi pas, il aime Dieu, il parle de Dieu, il a même une Bible, bon, il y a quelques livres en plus, hein, mais il a même une Bible. Ah, ça doit être un chrétien. En tous les cas, il adore le Créateur, ça doit être un chrétien, selon la définition. J'aimerais que vous ne nous laissiez pas prendre par ce piège. La parole de Dieu nous invite à la repentance et à la foi. La repentance de nos péchés, où nous nous reconnaissons pécheurs, non pas nous confessons la multitude de nos péchés, parce que ça c'est impossible de les connaître tous, mais que nous nous reconnaissons pécheurs et perdus, car le salaire du péché c'est la mort, et que nous reconnaissons qu'en Jésus-Christ il y a la vie éternelle. Alors il nous faut prendre position, là. Je crois que dans les églises vous serez amenés à le faire, parce que les chrétiens vont être de plus en plus influencés par les médias, que vous le vouliez ou non, ils seront de plus en plus influencés par ce qu'ils lisent, par ce qu'ils entendent, et il faudra que vous ayez des idées claires là sur le mouvement écuménique, il faudra que vous ayez des idées claires sur le catholicisme, afin de pouvoir expliquer à vos braves frères et sœurs, hein, de quoi ils retournent. Bon, vous pouvez reconnaître que dans le catholicisme, il y a la confession trinitaire, c'est vrai. Hein, ne les rendez pas plus mauvais qu'ils ne sont. Vous pouvez reconnaître que dans l'Église catholique romaine, au cours des siècles, il y a des hommes et des femmes qui ont voulu être fidèles à Dieu, voulu, hein, les intentions étaient là. On ne fait pas de procès d'intention. Vous pouvez reconnaître qu'il y a eu un rôle historique qui a été joué, hein, dans les monastères notamment, hein, en copiant cette parole de Dieu qui nous a été transmise. Hein. Nous avons une multitude de documents, hein, bibliques. Mais, vous devez clairement aussi énoncer, hein, vos frères et vos sœurs que nous rejetons, hein, l'addition de livres, de chapitres, dans Daniel notamment, où il y en a 14, qui sont deutérocanoniques, hein, qui sont apocryphes, que nous rejetons l'autorité du pape, la revendication de son origine biblique. Notre frère Tim prêchera sur ce thème demain après-midi. Hein. Que nous rejetons le rôle de la tradition et du magistère, lesquels sont situés dans l'Église catholique au même niveau que la révélation biblique, que nous rejetons ce culte dû à Marie qu'ils appellent hyperdulie, et aux saints qu'ils appellent dulie, aux anges, ainsi que la vénération d'objets religieux, les fameuses reliques dont nous parlait notre frère Boada. Hein. C'est extraordinaire, ce fétichisme. C'est du fétichisme. Quand vous commencez à adorer à vénérer des os, là, et des tuniques, et la pierre sur laquelle Marie se serait assise, là. Mais si c'était pas aussi grave, nous aurions tous dû éclater de rire. Tellement c'est stupide. Mais c'est grave, parce qu'il va y avoir un pèlerinage. Vous pouvez être sûr qu'il va y avoir un pèlerinage, qu'ils vont bâtir quelque chose autour de cette pierre, hein. Et les gens diront, ah, vous vous rendez compte, le lieu où Marie, portant le petit enfant Jésus, s'est assise, oh, quel lieu béni, etc. Fétichisme, fétichisme. Donc, nous rejetons la pensée. Moi, je rejette en tous les cas. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je rejette la pensée selon laquelle l'Église romaine est une dénomination chrétienne, alors qu'elle oblige ses fidèles à tant d'idolâtrie. Nous rejetons la doctrine catholique des sacrements. Hein, je vois deux institutions dans la Bible. Le baptême, baptizo, immersion, hein, symbole de notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Le repas du Seigneur, le repas du Seigneur, commémoration de son sacrifice pour nous. Mais nous rejetons tout le reste. Je peux pas accepter l'idée qu'il y ait une transsubstantiation qui s'opère et que par la vertu d'un prêtre qui prononce quelques formules magiques là, tout d'un coup le pain se transforme en corps de Christ et tout d'un coup la coupe se transforme en sang de Jésus-Christ. On en arrive aux idioties que le frère le pasteur Chiniki nous a rapporté, hein. Le brave gars qui dit « Oh, ils ont mangé le bon Dieu, ils ont mangé le bon Dieu !» Qu'est-ce que tu racontes ? Ben oui, ils ont mangé le bon Dieu. Qui ça ? Les rats ont mangé le bon Dieu. Hein, tout ça parce que des rats s'étaient introduits dans le tabernacle d'une église catholique et avaient mangé les hosties consacrées. Ils avaient mangé le bon Dieu. Ben, maintenant, ce sont des rats sauvés, sans doute. Hein. Alors, attendez-vous à trouver quelques-unes... Moi, ça me fait peur. Hein. Qu'il y ait des rats sauvés, ça me fait peur. Hein. J'ai horreur de ces bestioles-là. Hein. Il faut rejeter la doctrine catholique selon laquelle l'Église est le Christ qui continue. Non. Il y a le Christ. Et il n'y a pas de vicaire, là. Hein. Il y a des ambassadeurs de Jésus-Christ, c'est vous, c'est moi. Il y a des témoins du Christ, c'est vous, c'est moi. Nous sommes tous sacrificateurs devant Dieu. Il n'y a pas besoin d'autres intermédiaires, là. Il y a Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Il nous faut rejeter le rôle des œuvres. En tant que mérite, hein. Bon, les œuvres, elles ont leur place, hein, dans notre développement chrétien. Nous avons été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, hein. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais ces œuvres, hein, nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ ayant été créé pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire que notre vie maintenant doit, dans l'amour de Dieu, et dans l'obéissance à la parole de Dieu, exprimer par une vie transformée, par des fruits, hein, ses œuvres. Alors, ce que je déplore, moi, c'est la stratégie, la tactique habile, hein, du catholicisme, avec ses forces vives, là. Ce que je déplore, c'est qu'au cours des siècles, hein, cette église romaine a été responsable dans l'organisation de persécutions, de massacres, de guerres internationales, hein, dont elle ne s'est jamais officiellement repentie. Là, ils ont demandé pardon aux Juifs parce que pendant la guerre, ils n'ont pas dénoncé, hein, Pie XII savait ce qui se passait dans les camps, ils n'ont pas dénoncé la chose. Ils n'ont rien dit au sujet des Croates qui ont massacré les Serbes encore. J'ai rien entendu avec l'approbation de ce même pape. Hein. Sa responsabilité dans les millions et de millions de chrétiens fidèles à travers les siècles qui ont payé par le sacrifice suprême, hein, leur amour pour le Seigneur, leur amour pour la parole de Dieu. Ce que nous déplorons, c'est le combat de l'Église catholique contre les saintes écritures pendant des siècles et des siècles. Hein, jusqu'en 1957, en Espagne, il y avait des autodafés, on brûlait la Bible en public. Hein. Maintenant, bon, on a réintroduit la Bible, hein, mais alors il faut voir les notes. Hein. Voir les notes, hein. Vous avez déjà vu la taube ? Moi, j'ai acheté la taube, pas parce que je l'utilise dans le pupitre. Hein. Alors, si vous me voyez avec la taube et le catéchisme de l'Église catholique, je vais être... Alors là, on peut fermer l'Institut. Hein. Mais les notes sont effroyables. Les notes, donc, libérales et tendancieuses et tout ce que vous voulez. Mais, juste à un passé récent, hein, la Bible dans le langage du peuple a été interdite. Et la confusion dont parlait un de nos orateurs, là, la confusion de la relation entre l'État et l'Église. Ah, l'Église catholique n'a jamais...